franceinter.fr.
Bonjour à tous. Quand on parle de l'Afghanistan, c'est rarement sur un ton optimiste. Après 4 décennies d'instabilité politique puis de guerre, ce pays reste l'un des plus instables et des plus dangereux de la planète. Les attentats se poursuivent, les talibans reprennent du terrain contre les forces de sécurité, la corruption continue de gangréner l'économie et la politique. C'est donc un petit défi que relève Interception ce matin avec le reportage de Vanessa Descoureaux. Car nous allons en Afghanistan pour un événement heureux. C'est l'ouverture d'une maternité. Une maternité toute neuve, comme on pourrait en rencontrer dans n'importe quel centre hospitalier de France. Elle est financée par la Chaîne de l'Espoir, une association humanitaire spécialisée dans les soins médicaux et la prise en charge des enfants. Le projet a pu voir le jour grâce à une collaboration avec la Fondation de l'Aga Khan et le soutien de l'Agence française de développement. L'ouverture d'une maternité est un événement en Afghanistan. Le pays figure en queue de classement mondial pour la situation sanitaire des mères. Une femme y meurt toutes les 2 heures de complications liées à la grossesse et à l'accouchement. Et les 2/3 d'entre elles accouchent sans la moindre assistance médicale. Vanessa Descoureaux a suivi la progression des travaux de cette maternité au cours des 6 derniers mois. Du recrutement du personnel au coup de stress de la dernière ligne droite, en attendant bien sûr les premiers bébés. Kaboul, naissance d'une maternité.
Interception, le magazine de la rédaction.
Deux infirmières qui sont en train de nettoyer méticuleusement une des couveuses qui va trouver place dans la salle juste à côté de nous.
Je m'appelle Aline Perret, je suis cadre supérieur de santé à l'assistance publique. J'ai mené ma carrière d'infirmière d'abord, d'enseignante en école d'infirmière ensuite, de cadre de soins et de cadre supérieur de santé chargé de la formation continue d'un établissement de l'assistance publique.
Donc la fibre pédagogique que j'observe depuis quelques minutes ici, voilà. Elle est en vous.
Elle vient de là, oui, tout à fait. Les notions d'hygiène ici ne sont pas les mêmes que celles que nous avons, qui sont peut-être un peu exagérées dans nos pays occidentaux. Mais par exemple, trouver une seringue avec un médicament dans un plateau et 2 pommes à côté, ça ne les choque pas puisque les pommes sont dites propres. Donc toutes ces notions-là sont alors inculquées. Voilà, c'est un peu compliqué pour eux, d'autant que leur vie est quand même particulièrement difficile, qu'ils n'ont pas forcément tous de l'eau courante et que la notion de propreté à la maison n'est pas la même que la notion de propreté à l'hôpital.
Aline Perret, ce n'est pas votre première mission pour la Chaîne de l'Espoir ici en Afghanistan. Vous avez suivi ce projet de maternité depuis quelques temps. C'est quoi? C'est angoissant ou c'est enthousiasmant, cette dernière ligne droite dans laquelle nous sommes? Vous êtes plutôt que...
Alors les deux à la fois. Les deux à la fois. Parce que, comment dire, on se dit qu'on va recevoir des petits bébés qu'on a déjà reçus mais qui sont nés dans une autre maternité que la nôtre.
Mais vous pleurez déjà, il n'y a pas encore les bébés.
C'est normal. Les enfants qu'on reçoit actuellement dans réanimation sont des enfants nés dans des maternités extérieures qui nous arrivent dans des états souvent très critiques, à la fois du fait de la naissance, de l'environnement dans lequel ils sont nés. Ils peuvent arriver infectés. Dans ces conditions-là, on ne se sent pas responsable de l'état du patient. Alors que les enfants nés ici, c'est de A jusqu'à Z.
Donc c'est énormément de pression pour vous, là vous l'exprimez par quelques larmes, mais on vous sent investi d'une mission, d'une énorme mission.
absolument, parce que j'ai vu ici des enfants mourir de septicémie, et je trouve qu'à l'heure actuelle, on n'a pas le droit, enfin, on peut éviter ça. Bien sûr, certaines fois, on ne pourra pas l'éviter, mais si en termes d'hygiène et d'asepsie, les choses sont faites comme elles doivent être faites, eh bien, on évite beaucoup, beaucoup de choses. C'est pas drôle de nettoyer une couveuse, c'est pas drôle d'y passer une heure et demie, mais si on sait qu'à partir de là, les enfants qu'on recevra ne seront pas infectés de notre fête, c'est quand même un plus.
Vous avez encore du travail devant vous.
Ah oui, ah oui.
Vous
oui.
avez beaucoup tout, de travail devant vous.
Tout est à nettoyer, tout est à désinfecter, et voilà, on y va. Alors les filles, on a ça à faire. On fait ça aussi, hein?
Mars 2016, devant ce qui est encore un bâtiment en travaux et qui sera dans 6 mois la future maternité initiée par la chaîne de l'espoir.
Alors, cette maternité, on y a pensé dès le départ, puisque on avait dit c'est un hôpital mère-enfant. On dit que tout est difficile en Afghanistan. C'est difficile d'avoir le projet, c'est difficile de trouver l'argent. Et c'est difficile aussi de trouver les entreprises. Et pour la première fois, là, on perçoit le bout, on voit comment ça va être. Et c'est, enfin, pour moi, c'est un moment d'une émotion incroyable.
Éric Chesson, vous êtes le fondateur, le président de la chaîne de l'espoir. On est encore, effectivement, je venais de le dire, dans un bâtiment en travaux, mais pas mal d'émotions déjà, parce que ça part de tellement loin, ce projet. Vous ressentez quoi, là?
Quand j'arrive ici, j'ai presque la chair de poule. Parce que lorsque vous parlez d'Afghanistan, ce n'est que catastrophe, attentats, kidnapping, les prédictions les plus noires. Ici, il y a une petite lumière qui brille. Peut-être que ces femmes, enfin, vont avoir accès, je dirais, à une maternité de base, une césarienne, fait proprement, une consultation. Et on va voir plus haut, on va voir la première, la seule réanimation néonatale d'Afghanistan. Enfin, c'est quand même de la base. Alors, je pense qu'il y a la nécessité de soins, il y a le symbole, mais il y a aussi l'acte politique. Une des catastrophes de l'Afghanistan, c'est qu'il n'y a plus d'espoir. Et que les talibans, tous ces fous, font uniquement leur lit sur l'analphabétisme, le désert sanitaire et ce qui est rien. Et ça, c'est un espoir. La pire des choses pour les femmes afghanes, le plus grand danger, c'est l'accouchement. Et donc, ces murs, c'est plus que ça. C'est un symbole qui fait que c'est possible. On peut continuer à faire des choses en Afghanistan.
Alors, on va continuer la visite. Avec le casque de rigueur.
Là, tu reconnais Là, on est à l'étage de la néonate. Et on va voir les salles d'opération. Alors, je suis venu la dernière fois fin novembre. C'est le jour et la nuit. Enfin, c'est incroyable. Là, on sent le bout. Agnès, bientôt, il va falloir...
Agnès Simon, qui est la coordinatrice médicale de ce projet.
Oui, on voit déjà, on imagine déjà ce qui va se passer, en fait. Enfin, je me retrouve dans une structure qui se rapproche de là où je travaille, en fait.
Tout progresse, mais je sais pas si tu as remarqué, Agnès, mais le nombre de barbelés qu'il y a maintenant autour de l'hôpital, on a l'impression que c'est un espace de liberté, mais que ça se bunkerise par rapport à Dessart. Il n'y avait pas tous ces chemins de frise autour de l'hôpital. Et c'est marrant parce que ça a tellement changé depuis novembre que j'ai du mal à retrouver les salles de conférence et les lots techniques. C'est incroyable. Je vois, si tu veux, la fierté quand tu vois Najib.
Oui, ça c'est impressionnant.
Najib, enfin c'est...
Et surtout, moi, ce que je vois dans ce qui va être construit ici, c'est que les gynécologues obstétriciens ici, ils ont une incroyable pratique. Mais ils travaillent dans des conditions absolument harassante, avec un matériel des années 50 en fait en France. Ici, ils vont pouvoir exercer leur métier comme ils ont toujours rêvé de le faire en fait, comme ils ont jamais pu le faire quoi. Nous on visite, on connaît bien les hôpitaux publics ici, les maternités publiques, c'est-à-dire que n'importe qui serait cassé hein, au bout de deux gardes dans des conditions extrêmement difficiles.
Ils ont après combien d'accouchements par jour?
Par exemple, Malala, qui est la plus grosse maternité publique, c'est 100 à 120 accouchements par jour.
Par jour?
Par jour. Pantoise, que tu connais bien, parce que tu travailles, c'est 5000 par an. Donc, le rapport, il est rien à voir, quoi. Rien à voir.
Voilà, c'est la fin de la visite du chantier. Et une pluie froide s'abat sur Kaboul, ce qui n'est pas commun en cette saison. Mais ce qui fait plaisir aux habitants de Kaboul, puisque la saison d'hiver a été assez pauvre en neige, donc sera pauvre en eau pour tout ce printemps. Donc pour les Kaboulis, c'est une bonne nouvelle.
Je m'appelle Agnès Simon, je suis sage-femme. Je suis sur le projet de construction de la maternité à Kaboul depuis... j'étais embarquée en fait en 2012. Et donc en Afghanistan, je suis ce qu'on appelle une robela, c'est-à-dire une sage-femme. Et ce sont vraiment elles qui ont fait baisser la mortalité maternelle depuis en gros les années 2000. Donc le départ, on espère, complètement définitif des talibans. Il faut savoir que les chiffres, par exemple, en France, en gros 80 décès par an en France. Ici, c'était en 2002 à peu près, les chiffres sont approximatifs.
Juste après le départ des talibans et
juste
donc
après, voilà.
L'opération de la coalition internationale.
Voilà, on pouvait estimer ça à 1600 décès pour 100 000 naissances. C'est pas très parlant comme chiffre, mais pour vous donner une idée, maintenant on l'estime, alors avec tout ce que ça implique comme approximation quand même, à 340 pour 100 000 naissances, en sachant que c'est plutôt la région de Kaboul qui correspond à ces chiffres-là, mais il y a certainement eu des progrès de fait dans les provinces lointaines. En France, c'est 8 à 9 pour 100 000 naissances, en Europe en fait, de façon générale. Donc c'est pour vous donner l'immensité du problème sur cette région. Avec la reprise des combats dans certaines zones, dans le nord et dans le sud-est du pays, on craint que le travail des sages-femmes, qui était vraiment de se déplacer auprès des populations, et les femmes pouvaient se déplacer auprès des populations, les parents, les familles, les pères laissaient les femmes, les jeunes filles se former à la profession de sage-femme. On craint un peu qu'il y ait justement une rechute par rapport à ça, à cause de l'accessibilité des dangers. Les familles ont peur que leurs femmes et leurs filles se promènent sur les routes. Et pour moi, c'est vraiment un grand souci.
Cette maternité qui va ouvrir maintenant dans 6 mois à peu près, juste derrière nous, 4 étages, qui avance bien d'ailleurs. C'est pour ça que pendant cette interview, on entend régulièrement des bruits de travaux. Petite question de ressenti, hein, ça vous fait quoi, vous qui êtes impliqué dans ce projet depuis 4 ans, de voir quelque chose qui ressemble à une future maternité? Parce que là, en gros, on en est à poser les fenêtres, hein, on en est là. Hein.
Ça a toujours été assez concret, le bâtiment. Ce qui a été le plus concret, c'est quand j'étais au niveau des étages, même quand il n'y avait pas encore vraiment les murs, et que dessiné au sol, il y avait... Les salles d'accouchement. Là, ça m'a vraiment fait quelque chose. Et puis, l'autre grande émotion, c'est quand il y a 2 jours, j'ai rencontré déjà les sages-femmes qui ont été recrutées. Là, vraiment, on se dit, ça y est, on approche, quoi. On approche de l'ouverture.
On va aller voir.
Je m'appelle Fatma Foladi, j'ai 33 ans et j'ai mon diplôme de sage-femme.
Pourquoi, selon vous, l'Afghanistan est le pays où le taux de mortalité en couche est l'un des plus élevés au monde?
Il y a deux raisons qui expliquent que les taux de mortalité en couche et le taux de mortalité infantile soient élevés. La première raison, c'est que les sages-femmes ne sont pas assez formées. Elles n'ont pas de base solide. La formation est limitée. La deuxième raison, c'est que les femmes ne sont pas assez informées au sujet de la grossesse et des risques éventuels. La plupart des femmes, lors de leurs accouchements, ne vont pas voir les sages-femmes. Elles accouchent à la maison. Vous savez, les accoucheuses, ça existe toujours, et même à Kaboul. Il y a ces problèmes-là, beaucoup d'argent a été dépensé, mais il y a eu si peu de retombées positives et de bénéfices. Je connais des femmes qui ont eu 3 accouchements, des accouchements normaux, l'enfant est né en bonne santé, puis est mort subitement. Il faut identifier la source du problème, mais quand on arrive à son 4e accouchement, la femme accouche quand même à la maison. Il faut vraiment insister sur la sensibilisation. J'ai une proposition, je ne sais pas si cela vous concerne ou pas, mais ma proposition, c'est qu'il faut mettre en place un service de soins en prénatal. C'est-à-dire des cours de sensibilisation avant l'accouchement pour avoir un contact avec les patientes. L'enjeu, c'est de leur expliquer qu'à tel mois, elles doivent passer tel examen, faire telle analyse, leur dire qu'à ce mois-ci, elles risquent de rencontrer ce genre de problème-là. Tout ça parce que les femmes ne viennent pas trop à l'hôpital. Et ça serait bien que ces infos soient données à tout le monde. Soit par SMS, soit par message vocal sur les mobiles. Ces femmes sont à la maison, elles sont analphabètes. Donc à nous de leur faire passer un message simple et accessible pour qu'elles fassent les examens nécessaires à toutes les étapes de la grossesse.
Feroza Mouchtari, vous êtes la présidente de l'association des sages-femmes ici en Afghanistan. Est-ce que vous pourriez nous raconter pourquoi vous avez décidé de faire ce métier ?
J'étais une écolière quand les talibans ont pris le contrôle du pays. Les femmes ne pouvaient pas sortir dehors sans un homme à leur côté.
Même à l'hôpital ?
Oui, même à l'hôpital. Les femmes qui voulaient aller à l'hôpital devaient être impérativement accompagnées par un homme. Un jour, j'ai vu une de mes voisines, le travail avait commencé, elle demandait de l'aide. Il n'y avait aucun homme autour d'elle dans sa famille pour la conduire jusqu'à l'hôpital. Elle est venue jusqu'à chez nous pour demander de l'aide. Malheureusement, à la maison non plus, il n'y avait personne pour l'accompagner. Et moi, je regardais cette femme. Elle saignait, elle se tordait de douleur, elle était vraiment mal. J'ai pensé à quelque chose aussitôt et j'ai demandé à ma mère si je pouvais changer de vêtements pour ressembler à un garçon et la conduire à l'hôpital. Ma mère m'a demandé « Est-ce que tu es folle ?» J'ai juste dit « Non, maman, mais elle est en train de mourir. » J'ai finalement convaincu ma mère, je me suis changée. Je suis allée avec cette femme, j'ai pris un taxi, j'étais assise devant, à côté du chauffeur, j'essayais de prendre une voix de garçon et nous sommes arrivés à la maternité. Elle a donné naissance à un magnifique et adorable garçon. Elle était heureuse. La mère et l'enfant se portaient bien. Et après ça, j'ai dit, « Hey, Feroza, choisis sage-femme comme métier. » Parce que même si tu n'es pas en poste à l'hôpital, tu peux aider quelqu'un à avoir une grossesse et un accouchement en toute sécurité. Ensuite, la situation politique a changé et j'ai eu la chance de poursuivre mes études et de devenir une sage-femme et fière de l'être. Ce n'est pas qu'un métier, c'est mon rêve, c'est mon futur, c'est ma vie.
Nous allons désormais à la rencontre du docteur Palawashar Medzai. C'est l'une des 4 gynécos recrutées pour la future maternité. J'ai bien dit une des 4 car pour des raisons évidentes, seules des femmes ont été recrutées à ce poste.
Ah,
Est-ce que les femmes sont assez informées des risques durant la grossesse ?
Toutes les femmes ne connaissent pas les risques majeurs de la grossesse. Je me souviens d'un cas, il y a peut-être 4 ans de cela, la patiente était atteinte de pré-éclampsie. C'est une hypertension artérielle durant la grossesse. Elle était inconsciente. Les proches de cette femme l'ont amenée auprès du Mola. Et le Mola a alors saisi un objet dans sa main et il a frappé la patiente. Et seulement au bout de 4 heures, là, ils ont décidé de la conduire à l'hôpital. Tout son corps était noirci par les coups qu'elle avait reçus partout. On leur a demandé ce qui s'était passé et le Mola a répondu qu'elle avait des djinns en elle. Ce sont des petits démons selon ses croyances.
D'accord, donc le Mola disait que la femme avait des démons en elle.
La patiente, en plus de son hypertension, souffrait de traumatismes corporels. Tout ça car ses proches ne sont pas éduqués, ils ne savent pas. Et pour cette raison, même à Kaboul, dans le centre du pays, les gens n'ont pas reçu d'éducation à la santé. Ils ne savent pas ce qui peut se passer, y compris durant la grossesse.
Vous nous avez expliqué avoir fait toutes vos études et vos années de perfectionnement ici en Afghanistan. C'est un choix patriotique de votre part de rester ici ?
Oui, je sais que ce peuple a besoin de gens comme moi. Parce que si nous, les gens éduqués, quittons l'Afghanistan, qui va les aider ? Parfois, en fonction de la situation de la famille, je quitte le pays, mais je rentre toujours. Zohal.
Toujours avec Agnès Simon, coordinatrice médicale du projet de la maternité. Où est-ce que nous sommes là désormais ?
Alors on est à l'hôpital, la maternité de Dache Barchi, qui est en fait coordonnée par Médecins Sans Frontières, qui nous accueille là sur le pas de la porte. Donc il y a plusieurs services, mais c'est surtout pour la maternité qu'on est venu les voir.
Et en quoi cette visite est utile pour vous, dans le cadre du projet ?
On voit justement quels sont les atouts qu'ils ont, les problèmes qu'ils rencontrent, vraiment le niveau des sages-femmes. Enfin, c'est vraiment voir une maternité pour pouvoir nous prendre des leçons, avoir des échanges aussi, c'est très important.
Hello, my name is Renée.
C'est Renée Madrol qui nous accueille. Elle est coordinatrice du projet MSF dans ce quartier situé à l'ouest de Kaboul.
Salam.
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 Donc tu vois, c'est la salle de travail, par exemple. On a 9 fils. Salam alaikum.
Et donc, c'est les femmes qui ont été admises à la précédente consultation qui vont être là en travail, surveillées par des sages-femmes qui regardent l'évolution de leur travail. Et quand il est temps, elles les passent dans la salle en face, qui est la salle d'accouchement.
Ça, c'est pour les anesthésistes et pour faire venir des anesthésistes. Vous en trouvez en France facilement des anesthésistes qui...
Des médecins ?
Des médecins anesthésistes.
Pour l'instant, on n'est pas trop mal.
Et j'ai vu que c'était un garçon, et c'est vrai que j'avais vu un garçon à Malala. Donc je sais que dans Block Up, c'est à peu près possible, mais il ne va pas en salle de naissance du tout. Mm-hmm. Quand c'est un homme anesthésiste, ça se passe comment ici, expat ?
Bon, je ne te cache pas qu'on a eu quelques discussions avec la communauté à ce sujet quand on a commencé à recruter, mais pas uniquement les expatriés anesthésistes hommes, mais aussi le staff national. C'est-à-dire on a du mal à trouver des nurses anesthésistes, donc on prend ce qu'on trouve et on essaie ensuite de les former. Mais c'est des discussions qu'on a eues avec la communauté pour leur expliquer que c'était le soin de la patiente en premier et que c'est quelque chose qui est accepté. Mais on maintient quand même des règles de base, pas de présence masculine dans la salle d'accouchement, du moins qu'on peut.
On y va parce que tu t'impatientes. J'écoute tout.
Mais tu verras aussi, mais en salle de naissance, les pédiatres sont des hommes.
Donc c'était ensuite de coup, c'était assez rigolo parce que la sage-femme arrivait, elle disait attention, homme arrive, et puis hop, elle s'en étouffait toutes, mais après il rentrait.
Il toque.
Ouais.
Et de toute façon, les filles sont au courant que le pédiatre arrive puisqu'elles l'ont appris. Et toutes les femmes se couvrent. Donc moi, je suis Camille Colomba. Je suis le médecin référent du projet. Et je suis française et je suis médecin généraliste à la base.
Alors, cette maternité a ouvert quand ?
Cette maternité, elle a ouvert en novembre 2014.
Donc au début, les objectifs, c'était de faire 600 accouchements par mois. La semaine dernière, on a fait 325 accouchements dans la semaine. Donc on est à la moitié des objectifs du mois. Aujourd'hui, par mois, on fait 1300 accouchements environ, dont on peut dire environ un quart sont des accouchements et des grossesses qui sont compliquées.
En cas de grossesse difficile qui conduit à une césarienne, qui donne le consentement dans une société aussi patriarcale, aussi rigide que la société afghane ?
C'est très surprenant pour nous qui venons de pays plus européens. Nous avons l'habitude de demander le consentement du patient pour sa chirurgie. Ici, on essaye de demander le consentement de la patiente. Mais si la patiente consent et que son mari ne consent pas à la césarienne, alors on n'aura pas le droit de faire cette césarienne. La loi nous demande d'avoir le consentement d'un membre de la famille très proche, de préférence le mari, si ce n'est pas le mari, le beau-père ou le père, et si vraiment on n'a pas d'homme présent, éventuellement la mère ou la belle-mère. Mais au maximum, on essaye toujours d'avoir au moins par téléphone le consentement oral du mari, du père ou du beau-père, afin d'éviter toute contestation de notre décision de recourir à une césarienne pour cette patiente.
C'est
un garçon.
Il est né quand ?
Chao.
Pendant la nuit.
À
23h.
Ça s'est passé comment ?
C'était très difficile. Au début, c'était pas prévu que je sois opérée, puis j'ai dû être opérée. L'opération s'est bien passée.
Vous avez combien d'enfants ?
Deux.
C'est le deuxième. Vous l'avez déjà prénommé, pas encore ?
Voilà. Farhad.
Merci beaucoup, madame. C'est très gentil de nous avoir consacré ces quelques minutes, quelques heures après la naissance de ce petit Farhad. Une toute petite minute, peut-être, avec l'accompagnante.
La tante de son mari,
d'accord.
Du côté paternel.
Vous avez été tenue informée de ce qui se passait, des complications donc, que ça représentait ?
Elle pensait qu'elle pourrait accoucher de façon classique, mais que vers 23h, je crois, on leur a dit que c'était pas possible, qu'il fallait faire une césarienne, et que toute la famille était d'accord, et que du coup ça s'est fait, ça s'est bien passé.
Qui a été consulté dans la famille pour donner le consentement ?
On a demandé à son mari, mais on était tous au courant de la situation, et on était tous présents. Et c'est le mari qui a pris la décision.
Alors la petite fille qu'on a beaucoup entendue dans le reportage jusqu'à présent vient d'être remise à sa maman, voilà, qui est en train de l'allaiter déjà. Et le petit garçon qui est né quelques minutes après elle et qui a été beaucoup plus silencieux, lui, est en train d'être emmailloté. Voilà, là il y a une panne d'électricité. Ça dure, et toujours pas de courant. Et c'est reparti. Voilà, donc une minute, pas plus de coupure d'électricité. Novembre 2016, et nous voilà dans un bâtiment à peine reconnaissable par rapport à celui qu'on a laissé en mars dernier.
parce que désormais presque tout semble prêt, sauf qu'il y a encore beaucoup de détails à régler, à peaufiner également dans ce bâtiment ultra moderne qui va bientôt accueillir 6 salles de naissance, des salles individuelles d'accouchement. Ça peut paraître un peu bête comme ça de le préciser, mais ce n'est pas la norme en Afghanistan. D'ordinaire, les femmes peuvent être plusieurs dans une même salle d'accouchement. Ce ne sera pas le cas ici. Il y aura également 2 salles d'opération et un service de réanimation néonatale, et ce sera d'ailleurs le seul dans tout le pays.
And resuscitation board. No need for you agree.
Alors, nous sommes aux côtés de Fatma, qui est une des sages-femmes qui a été recrutée pour travailler dans cette maternité. Et il s'avère que la sage-femme en question est enceinte et pourrait même être la maman, une des premières mamans à accoucher dans cette maternité, puisque le terme est prévu fin novembre. Et la petite histoire pourrait être celle-ci. C'est votre premier enfant ?
Balé. Oui. Torta,
c'est une fille.
Vous qui, il y a quelques mois, quand on s'était rencontrés, avez alarmé sur le fait qu'il y avait pas assez d'informations pour les femmes, vous êtes bien suivie ici.
Je pense que ces problèmes persistent, parce que moi-même, quand j'ai voulu faire des tests sanguins supplémentaires en raison de ma grossesse, à mon âge avancé, j'ai 34 ans, je voulais faire certains tests spécifiques. Mais quand je suis allée dans différents hôpitaux de Kaboul, aucun n'était en mesure de me faire passer ces tests. Même ici, à l'Institut médical français. Quand je me suis tournée vers eux, ils m'ont dit qu'ils ne pratiquaient pas ces tests. L'une des composantes de ce test, je l'ai faite moi-même, parce que je suis du milieu médical. Mais quelqu'un qui ne connaît pas le métier n'aurait pas pu le faire.
Il faut faire l'effort sur quel domaine ?
Je ne sais pas vraiment, mais déjà il faut faire des efforts de sensibilisation parce que les gens ne savent pas. Par exemple, quand une femme de plus de 35 ans est enceinte, les gens ne savent pas qu'il faut faire un suivi spécifique. Et aussi, les médecins ne sont pas assez attentifs à ça. C'est un problème d'information et de sensibilisation au niveau de la population, mais aussi des professionnels médicaux. Ils disent « on s'en remet à Dieu ». D'accord, mais partout dans le monde, il y a des progrès dans ce domaine. On peut prévenir certaines maladies avant la naissance de l'enfant et même traiter certaines autres maladies. On peut trouver une solution. Mais en Afghanistan, ce n'est pas possible. Je suis allé voir plusieurs médecins et ils me disaient « on s'en remet à Dieu ».
Donc vous êtes quand même dans une situation et professionnelle et personnelle quand même assez bouleversante, c'est-à-dire que la maternité et votre enfant, tout arrive en même temps.
Tout est arrivé en même temps. Le 28 février, j'ai commencé à travailler à l'Institut médical français. Une semaine après, je suis tombée enceinte.
Et là, j'imagine que tout le personnel est aux petits soins pour vous.
On verra au moment de l'accouchement.
You're ready?
Qu'est-ce que vous faites là?
Là, on est en train de regarder le circuit du nouveau respirateur et on va le démonter et les infirmières vont devoir le remonter.
Cours pratique aujourd'hui.
Cours pratique, exactement. Oui.
C'est pas pratique ce truc.
Ça y est.
C'est un modèle extrêmement neuf. Vous l'avez, vous, par exemple, au CHU de Rouen, où vous officiez?
Non, on a des modèles beaucoup plus anciens de cette marque-là. On a d'autres modèles qui font un peu les mêmes fonctions, mais celui-là, il y a des fonctions vraiment récentes et que j'ai pas encore expérimenté personnellement.
Donc c'est cours pratique aussi un peu pour vous finalement. Voilà, c'est le seul infirmier du groupe qui était donc essentiellement constitué de femmes, d'infirmières, mais c'est le seul homme de groupe qui va commencer cet exercice pratique du jour. Donc les hommes d'abord, même pour cet exercice pratique. Il est quand même repris par les filles qui ont raison. Stéphane, c'est elles qui ont raison.
Elles ont repéré qu'il avait monté le filtre dans le mauvais sens et du coup elles l'ont repris gentiment.
Yeah,
Nous sommes dans la salle de consultation gynécologique où commence le suivi des femmes qui vont accoucher dans les prochaines semaines à la maternité.
Là, tu passes ?
Je vais d'abord vous demander votre prénom, madame.
Najiba.
Najiba. Vous avez quel âge ?
Spine Sol.
25 ans.
C'est votre première grossesse ?
Né Chachon.
C'est la sixième grossesse. Les quatre premières grossesses étaient des fausses couches et donc la cinquième, elle a eu son premier enfant et elle est venue ici. Elle lui a demandé l'autorisation de pouvoir découvrir son ventre pour l'écho.
Alors là, en fait, on est dans une première pièce avec des sages-femmes, deux sages-femmes qui s'occupent de cette patiente.
Le cœur, bien, il n'y a aucun problème pour l'instant. Elle avait 17 ans quand elle s'est mariée. Est-ce que c'était une grossesse volontaire ou...
Elle dit
que c'était pas souhaité.
Voilà, c'est la fin de la consultation.
They are looking after me. I have just one patient. She's coming.
Zohan,
please.
Who is this? Sasha.
Hop, entrer dans le bureau tout neuf. Là, nous sommes en plein dans une consultation gynécologique donnée à deux femmes qui viennent de Kunduz. C'est une province qui n'est vraiment pas près de Kaboul. Et pourtant, ces femmes ont expliqué avoir fait le trajet spécifiquement jusqu'à la capitale afghane pour recevoir des soins, ce qui en dit long dans la pauvreté de l'offre médicale dans le reste du pays.
Je suis le docteur Miloufar Sadak. Le problème dans ce cas, c'est que la patiente ne peut pas faire plus d'examens qui permettraient de savoir précisément ce qui l'a conduite ici. Je ne peux pas trouver le problème. Car la patiente n'a pas beaucoup d'argent. Elle ne peut pas se permettre plus de tests. J'ai pratiqué les examens basiques, qui ne sont pas très chers, mais parfois nos diagnostics vont être faibles ou approximatifs à cause de cet aspect économique. C'est exactement le problème avec cette patiente.
Ça arrive souvent, des histoires comme ça, de gens pas assez fortunés pour se payer les examens appropriés.
Peut-être que ça arrive dans 50% des cas que je rencontre. Quand ça arrive, c'est difficile. Comment commencer quelque chose, travailler avec elles?
Comment vous arrivez à gérer cette situation?
Parfois, je ne peux pas aider. J'essaie vraiment d'aider, mais parfois l'ampleur des problèmes est telle que je ne peux rien faire. Mais quelquefois, vous savez, ils ont de l'argent. Ils l'empruntent à un proche, ils se débrouillent. Ils résolvent leurs problèmes ainsi et pour eux, tout va bien. Mais si je ne peux rien faire pour le patient, c'est vraiment dur de tolérer de telles situations.
Bye.
Bye.
« La réputation de l'Institut médical français est quand même d'être assez chère par rapport au niveau de vie afghan. Du coup, la facture va être calculée en fonction des revenus des familles, c'est-à-dire qu'une enquête sociale va être lancée, va être menée pour calculer précisément le coût des soins dispensés en fonction de ce que les familles peuvent payer. Sauf que nous sommes quand même dans un pays où parfois, ou souvent même, même se déplacer, prendre un bus par exemple, c'est un investissement pour ces familles. Alors en contrepartie, il y a un endroit qui va voir le jour, un endroit qui va accueillir les femmes et leurs bébés quand l'accouchement aura été difficile. Et cet endroit, lui, sera gratuit.
Sahi !
Osaï Sabri, vous êtes une des historiques de la chaîne de l'espoir. Et ce qui est intéressant avec vous, c'est que vous êtes impliquée dans des projets très positifs pour l'Afghanistan, mais votre vie quotidienne, elle vous inspire beaucoup, beaucoup moins d'optimisme.
La vie quotidienne en Afghanistan est vraiment dure pour tout le monde, parce que la situation empire chaque jour. En sortant de la maison le matin, personne ne sait si le soir il rentrera vivant ou non. Il y a beaucoup d'attentats, beaucoup d'enlèvements. Les gens sont vraiment inquiets de la situation en Afghanistan.
Quand vous parlez de kidnapping, c'est aussi pour des Afghans, pas seulement les étrangers.
Les hommes d'affaires, même s'ils n'ont pas beaucoup d'argent, peuvent avoir leur fils kidnappé ou leur fille, ou même la mère de famille. Et le preneur d'otages les appelle pour obtenir une rançon de 100 000 dollars ou 200 000 dollars. Et en échange, on leur dit, on vous ramène votre fils ou votre fille. Mais s'ils ne paient pas, ils tuent l'otage, ils déposent le cadavre devant la maison où ils peuvent couper les mains. C'est vraiment une situation terrible.
Ça veut dire que tous les jours, vous devez faire très attention à vos déplacements, par exemple.
Oui, aujourd'hui, tout le monde a peur. Moi, par exemple, je change mes horaires de déplacement. Un jour, j'arrive au travail 5 minutes avant, un jour, 5 minutes après. Et ensuite, pour rentrer à la maison, c'est pareil. 5 minutes avant ou après l'heure régulière. Mais il ne faut pas partir toujours à la même heure.
Juste pour éviter d'être repéré par ces groupes-là.
Oui, vraiment, on est terrifiés. Pour tout le monde, la vie est dure ici, mais surtout pour les femmes. C'est encore comme une prison. Il y avait une femme, une fille plutôt, elle n'était pas mariée, elle était célibataire. Elle allait au club de gym tous les matins pour faire du sport. Et au bout de 2-3 mois, sur son chemin pour aller au club, un homme s'est approché et lui a jeté de l'acide dessus. Beaucoup d'acide sur son visage, qui s'est comme décomposé. Il a fait ça juste parce qu'elle aimait aller au sport. Quand on sort maintenant, on ne sait pas qui on a en face de soi. Si la personne appartient aux talibans ou s'il a rejoint Daesh, si c'est quelqu'un de normal. Parce que les hommes de Daesh ou les talibans s'infiltrent dans la population comme des gens normaux. Vous savez, même ici, on reçoit des patients de différentes provinces et parmi eux, certains appartiennent aux talibans. Il y a eu un garçon de 18 ans récemment. Il avait sur lui beaucoup de photos de talibans et il se tenait à leur côté.
Dans le jardin de cette maison, il y a déjà des enfants. Ce sont des enfants qui ont été opérés dans l'hôpital déjà existant de la chaîne de l'espoir et ils sont là, ces petits, pour se reposer après des chirurgies souvent très lourdes.
خوب هستیم؟
خوب هستیم.
بگو تشکر دست شما در نکنه.
تشکر دست شما در نکنه.
Comment vous vous appelez, madame?
Kimia.
Kimia. Je viens de Rohr. C'est à 24 heures de bus d'ici.
C'était comment de rejoindre Kaboul depuis votre ville? Est-ce que c'était compliqué? Est-ce que c'était dangereux? On se rend pas compte ce que c'est de traverser l'Afghanistan comme ça.
J'ai tenté une première fois de quitter ma province, mais on a dû faire demi-tour car il y avait des combats dans un village qui s'appelle Siorok. On est rentré à la maison et on a dû attendre une bonne vingtaine de jours que ça se calme pour reprendre la route. C'était des combats entre les talibans et l'armée afghane. Quand on a tenté d'arriver ici, les talibans ont fait arrêter les voitures et bus. Ils ont pris 12 personnes, ils les ont amenées dans les montagnes. Les véhicules qui étaient à l'arrière ont pu faire demi-tour et fuir. Ils n'aiment pas les gens de mon ethnie, les Hazaras. Ils les prennent, ils font tout pour nous empêcher de quitter notre province, pour limiter nos déplacements. Ils n'en ont rien à faire, que ce soit pour aller soigner un enfant.
Alors là, la femme qu'on vient d'interroger explique à notre accompagnatrice qu'elle a très très peur que ce soit une caméra et pas un micro, et elle n'arrête pas de faire le signe de « attention, s'il me voit, il me coupe la gorge ». Donc on essaye de la rassurer pour bien expliquer qu'effectivement c'est la radio et que son visage n'apparaîtra nulle part. Agnès Simon, vous êtes la coordinatrice médicale de ce projet de la maternité. On a déjà entendu votre voix au cours de ce reportage, puisqu'on vous avait suivi assez longuement au mois de mars. On va conclure ce reportage avec vous parce qu'on a l'impression qu'on est vraiment très proche de l'ouverture de cette maternité. Puis à chaque jour qui passe, on a encore plus de difficultés devant nous. C'est ça aujourd'hui l'état d'esprit ?
C'est-à-dire qu'on a encore des petites difficultés à surmonter, qu'on découvre des fois au dernier moment, qu'on n'a pas pu anticiper. Mais ça, c'est pas spécifique à l'Afghanistan, pas du tout. C'est vraiment l'ouverture d'un grand bâtiment hospitalier. C'est comme ça partout, que ce soit à la PHP ou que ce soit à Kaboul. C'est pareil, ça me choque pas.
Et c'est quoi ces détails dont vous parlez ?
Comme partout, et c'est là où on voit qu'on n'est pas n'importe où en fait, hein. Il faut un ingénieur agréé qui va certifier que tout le circuit des gaz médicaux est conforme à la sécurité, etc. C'est un ingénieur qui arrive du Pakistan et pour l'instant il est coincé à Dubaï parce qu'il n'arrive pas à avoir son visa pour l'Afghanistan. La plupart des équipements arrivent par avion, qui a des fois un long séjour à la douane. Le ravitaillement, le stock, c'est quelque chose de subtil ici. Il faut vraiment s'adapter. On a changé des façons de travailler qui étaient très européennes par une autre façon de travailler, mais qui est tout aussi valable, parce qu'on pourra plus facilement se procurer soit les médicaments nécessaires, soit les équipements nécessaires. Et ça, c'est très important pour la pérennité de l'établissement.
Et ça, c'est des difficultés vraiment liées à la particularité de l'endroit où vous avez décidé d'ouvrir cette maternité quand même. On n'est pas n'importe où. Enfin, on est à Kaboul.
Non, on est dans les montagnes à 1800 mètres, oui. C'est vrai.
Kaboul, naissance d'une maternité. C'était un reportage de Vanessa Descoureau. Réalisation, Jérôme Boulet, assisté de Stéphane Combe et Marion Philippe. Mixage, Benjamin Vignal. Zora Bensmaili complète, comme chaque semaine, la page internet d'Interception. Et nous saluons aussi la précieuse contribution du service de documentation sonore de Radio France. Je vous souhaite un très bon dimanche.
Merci à vous, Pascal Dervieux. Donc, Interception, prochain rendez-vous la semaine prochaine. Si vous voulez approfondir ce sujet, bien notez que vous disposez sur le site internet de France Inter et de l'émission différents liens et également différents articles.